midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui Kayo Mpoy. Bonjour et bienvenue.
Merci.
Heureusement
merci.
Que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas prononcer le M.
Oui, c'est difficile.
C'est compliqué pour moi. Bon. Alors, vous êtes toujours membre de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Stockholm?
Ah oui.
Oui, toujours.
J'étudie. J'ai troisième année.
D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas?
Oui, c'est ma l'art.
Ouais.
Alors, c'est libre, tout le monde fait ce qu'il fait. Moi, j'ai fait les estampes. Estampes,
ouais.
On dit comme ça.
Les estampes, ouais,
les
c'est
estampes, bien. Oui, ouais, c'est bien, ça. Ouais. Et dessiner, je dessine.
Très bien. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre premier roman qui s'appelle « Dieu est un garçon noir à lunettes » aux éditions La Belle Étoile. On va saluer le génie créatif de votre éditeur français qui a tout à fait bien traduit le titre de votre livre qui est paru pour la première fois en suédois et qui n'a absolument rien à voir avec ça.
Non. Non, je pense les titres français, c'est une phrase dans les livres. Mais le titre suédois, c'est mai, ça veut dire, ça signifie de l'eau.
C'est mai, ça signifie de l'eau, c'est ça. Ça, c'est le titre. Parce que l'eau est fondamentale. Est presque un personnage de votre livre.
C'est vrai.
Bon, merci d'accepter de parler français.
Ah oui, je vais faire un effort. je vais me débrouiller.
Votre langue quotidienne, c'est le suédois.
Oui.
Le français, c'est votre quantième langue.
Oui.
Vous avez grandi.
Oui.
Dans quel pays?
J'ai grandi en Tanzanie.
D'accord.
Mais nous sommes congolais. So, dans la famille, on parle français. Moi, je parle français avec mes parents. Mes parents me parlent Tshiluba. Et les Congolais parlent Lingala. Et en Suède, on parle suédois. Mais français est ma langue de naissance, je pense. Mais
maternelle,
ouais, oui. C'est la langue maternelle, mais ouais. Ce n'est pas la langue que je connais plus. Mais c'est comme une langue que j'ai dans le corps, je pense.
Et vous êtes arrivée donc en Suède, vous avez quel âge?
10 ans.
10 ans. Mm. C'était facile d'apprendre le suédois à 10 ans?
Oui, ça a pris 6 mois.
D'accord. Ah oui.
C'était ce mois comme ça.
Et votre premier roman, vous l'avez donc écrit en suédois?
En suédois, oui.
D'accord. Parce que vous parlez français, mais vous ne l'écrivez pas, c'est ça?
Non, je n'écris pas en français, non.
C'est votre premier roman, donc il a été salué par la critique. Nous, on ne connaît pas forcément les prix suédois, mais vous avez eu un prix important en Suède.
Oui, oui. C'est pour les prix pour les premiers, premiers livres, les débuts, pour les gens qui... Oh.
Voilà, c'était un prix qui encourage un premier roman.
Définitivement, oui. Oui.
Il y avait des sous à gagner ou pas?
Pardon?
Il y avait de l'argent dans
Oui, oui, il y avait l'argent, oui.
Oui, non, parce qu'on dit qu'on a un prix, mais ce n'est pas qu'un trophée.
Non, non, ce n'est pas un trophée, c'est l'argent. Et aussi, ça a aussi ouvert beaucoup de portes, je pense.
Celle qui parle dans votre livre s'appelle Adi. D'accord? Comme vous, elle a des lunettes.
Elle n'a pas les lunettes.
Elle dit qu'elle va en porter.
Oui, elle veut porter les lunettes.
Elle,
oui.
Elle a pas de lunettes, mais elle veut des lunettes.
Oui, oui, elle veut les lunettes. Oui, oui.
D'accord. Elle vous ressemble beaucoup. Et dans votre roman, c'est sa vie de l'âge de 6 ans à l'âge de 11 ans.
Non, 5 à 10.
5 à 10, oui. Parce que vous dédiez votre livre à vous à l'âge de 6 ans. C'est pensé.
Oui, ah oui.
J'ai fait un raccourci quand même.
Ah oui, je comprends. Oui, non, mais ça commence à 5, mais 6, c'est là où toute chose se passe. C'est là où toutes les choses importantes, je pense. Mais oui, mais c'est ça, ça commence à 5, mais je pense que la personne, moi à 6 ans, c'est la personne qui a besoin de cette histoire. Histoire. Oui.
D'ailleurs, vous dédiez votre livre à la fin du livre.
Oui, c'est vrai.
En France, on fait au début.
Non, mais j'avais fait ça. J'avais fait ça avec l'intention
d'être différente.
Non, non, parce que je ne voulais pas que ça soit au commencement, parce que je ne voulais pas que tu dois lire ça, que ça c'est un livre pour cet enfant ici, cette personne ici. Je voulais que ça doit être à la fin. C'est une dédication, mais ça ne doit pas être au commencement. Ça doit être à la fin.
C'est pour ne pas influencer le lecteur?
Pardon?
C'est pour ne pas influencer le lecteur.
Oui, oui, exactement. Et aussi parce que c'est pour moi, ce n'est pas vraiment pour les autres gens. C'est comme écrire la fin, écrire fin. Et avoir cette éducation, c'est comme pour envoyer ça dans le monde. C'est à cause de ça que je voulais avoir ça à la fin.
D'accord. Bon, ça marche pas avec moi parce que je commence toujours par la fin.
Ah, ok. pas de problème.
Je commence toujours par le dernier mot du livre.
Ah,
et en fait,
vrai?
Je lis le dernier chapitre et puis après je remonte. À moi, quand j'avais 6 ans.
Oui.
Voilà,
ah,
c'est bon. C'est la dédicace de votre livre. Oui. C'est un livre puissant, c'est un livre très puissant. Vous parlez donc la phrase que a retenu votre éditeur pour en faire le titre français. Hein. Mm. Dieu est un garçon noir à lunettes. C'est Adi qui le dit un soir comme ça. Elle dit Dieu est un garçon noir à lunettes. D'ailleurs, Dieu est très présent dans le livre hein, avec Adi.
Oui.
Mais d'où lui vient cette idée qu'il a des lunettes? Parce qu'elle voit les reflets de ses lunettes partout.
Oui, je pense que... Je ne sais pas si j'ai réponse de ça. Je pense que c'est... Dieu était arrivé. Il est arrivé dans le livre, mais il est aussi arrivé quand j'ai écrit ce livre. Et il était obligé d'être une personne qui est près d'Adi. En l'âge, j'ai aussi une personne qui pour montrer que Dieu est seulement comme toi. Dieu est une personne comme toi, n'est pas une personne qui est loin, n'est pas une personne qui est peut-être blanc ou bien qui est différent et loin. Et...
D'ailleurs, c'est une question qu'elle pose à son père. Mm. Est-ce que Dieu est noir, papa?
Mm. Oui, oui. C'est aussi pour parler des parce que le Dieu qui est là, c'est beaucoup le Dieu qui vient avec les dieux coloniaux. Parce que dans les livres, je mets ça, je contraste les deux dieux parce que elle se rencontre avec des femmes qui ont faith traditional, comment est-ce que je peux dire ça?
Qui ont une croyance traditionnelle.
Oui, qui ont une croyance traditionnelle qui est comme un contraste avec les dieux coloniaux parce que les dieux coloniaux étaient...
Les colons, ce sont les Belges à
l'époque. Oui, exactement. Et un peu est dur et parle beaucoup des sins.
Il parle beaucoup de péchés.
Un Dieu très fort, c'est moi comme le papa dans la famille. C'est à cause de ça. J'ai mis beaucoup d'images, de différentes images de Dieu pour parler
De quoi il a... Oui, en quoi il vous aidait, ce personnage de Dieu? C'était quoi? C'était le personnage à qui la petite fille se confiait?
Mmh. Oui, c'est ça. Ce qui se passe dans les livres, c'est une histoire. La mère dit toujours qu'on ne doit pas pécher, parce que quand Dieu va venir, quand le monde va finir, Dieu va venir, après tout le monde qui a fait du mal, on va les condamner. Et dans ce livre ici, le monde de Adi ça finit. Et là, parce que c'est qu'on a toujours dit à Adi, Dieu va venir quand le monde est fini. Dieu doit venir dans ce livre ici. So, Dieu vient, mais Dieu est l'autre chose qu'Adi a. On a dit à Adi toute sa vie. Mm. Dieu est notre personne. Dieu devient un témoin.
Un témoin de ce qui se passe pour la petite fille.
Oui, exactement. Et c'est exactement ce qu'elle a besoin.
Parce qu'elle dit que Dieu voit tout.
Dieu voit tout. Mais on change ça. Dieu voit tout, mais Dieu voit tout pour moi. Dieu voit tout parce que les choses qui se passent avec elle, c'est secret. Il n'y a pas l'autre personne qui voit, mais Dieu voit. So, elle tourne ça, ça devient... Bundesverwandte. Oh, les mots Bundesverwandte.
Oui, mais de toute façon, c'est bien. De toute façon, on a le temps. Si on va trouver les mots. Puis sinon.
Un ami, ou bien, je ne sais pas le bon mot pour ça. Companion.
Oui. compagnons de moments qui sont difficiles pour la petite
Exactement,
fille.
Exactement, oui. Ah. Dieu devient la personne qu'il a besoin. Et ça montre aussi une autre façon qu'on peut approcher Dieu. Et de cette façon, Adi devient une personne qui connaît plus que les parents. Parce que les parents sont toujours calés ou bien ils sont restés dans la vie coloniale, non? Les résultats des colonies, ils sont fermés dans leur tête aussi.
Oui. Est-ce qu'on peut dire, si vous êtes d'accord avec ça, que les parents sont le fruit de l'éducation coloniale qu'ils ont eue, même si le père a fui quand même.
Oui.
Le père a fui.
Mmh.
Hein? Mmh. Alors c'est vrai que nous, de ce côté de la Méditerranée, on est plus habitué à parler de la période coloniale en Algérie, par exemple, vous voyez. Mais donc c'était la France qui avait colonisé l'Algérie. Mais là, c'est une autre colonisation dont vous nous parlez et qui a exactement les mêmes méfaits dans la tête.
Oui, parce que ça fonctionne de la même façon. Et je pense qu'on peut écrire et parler de la colonisation de façon, beaucoup de façons différentes. Et parce que c'est que c'est l'oppression pour une certaine raison, mais c'est oppression. J'ai toujours parlé de ça, les livres aussi, quelquefois j'explique les livres aussi comme... les livres, c'est une spirale d'oppression. On parle de Adi. Adi est, on peut dire Adi est au bout, ou bien in the end, c'est au bout, au fond.
Ça dépend de la suite.
Ah. Si on parle en spirale, ça part comme ça.
Oui, d'accord.
Ici, ça continue à grandir. Après, ici, Adi est une personne, elle est seulement une petite fille, mais l'oppression qui arrive à elle, c'est la même oppression, c'est la même, même chose qui se passe dans la famille, c'est la même chose qui se passe dans le peuple, c'est la même chose qui se passe dans la nation. Et l'oppression, ça fonctionne la même, c'est que oppression is.
Dites-moi. Vous passez par l'anglais, si vous n'y arrivez pas, l'oppression, c'est la même chose.
Förtryck av. J'ai donné ce matin sans cela. Förtryck av det som är naturligt för en person. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai compris que l'oppression, ça fonctionne la même. L'oppression, ça oppresse. Le parti d'une personne qui ne peut pas changer. Ça veut dire sa sexualité, sa langue, son histoire, sa personne. C'est une histoire qui ne peut pas changer. Et ce qui se passe ici, c'est Adi, elle est une entité, elle est une personne, elle est une entité sexuelle. Ce n'est pas d'abord évolué, mais ça va venir. Mais d'abord, depuis le commencement, on l'enseigne que son vertu, ça veut dire qu'elle doit garder ça, ne pas laisser quelqu'un tout, ne pas aller. Elle doit être innocent, elle doit être pas touchée, elle n'a pas être sale, mais elle a déjà, et comme elle est une personne, elle a déjà une sexualité. Ça va, c'est un enfant, mais. C'est une sexualité d'un enfant. Elle est curieuse et choses. Mais depuis.
Elle est curieuse, par exemple, du corps des adultes.
Du corps, oui, exactement. Et il y en a beaucoup d'hontes et il y en a beaucoup.
Elle ne connaît pas les tabous, finalement.
Non,
pas encore.
Mais c'est là, l'oppression. On opprime. Comment est-ce qu'on dit? On opprime.
On opprime.
Oui, on opprime. On opprime l'opprime qu'elle sent.
L'oppression qu'elle sent,
oui. L'oppression qu'elle sent. Ouais. C'est contre son corps et son sexualité. Et depuis le commencement, elle va déjà échouer. Elle ne va jamais être propre. Elle ne va jamais être
vertueuse.
C'est impossible. Parce que
c'est fou d'écrire ça d'une petite fille, voyez.
Oui. Ah, quelle est la question?
C'est-à-dire que finalement, vous écrivez ça d'une petite fille qui a 5 ou 6 ans.
Oui, mais c'est là déjà. C'est ça qui est les grands problème ou bien c'est ça qui est, parce que elle est déjà une personne, elle est déjà, elle est curieuse après ce qui se passe dans les livres et elle est abusée sexuellement.
Oui.
Et déjà là, elle a échoué. Et comment est-ce que et tout ce qu'on a dit, le monde dit, pour être une personne, tu dois être propre, tu dois être virtueuse, oui. Tu dois être. Et ça, c'est l'oppression dans la sexualité. Mm. Parce que après, dans le livre, tous les frères et sœurs sont les différentes représentations des sexualités et cette honte qui est.
Oui, parce que chacun incarne une partie. Oui. Dans votre roman, en parlant des frères et sœurs, on en parlera tout à l'heure après une page de publicité, parce que le temps passe vite avec vous.
Okay.
Alors, on parle de votre premier livre, voilà, votre premier roman qui vient de sortir en France, et c'est un événement, s'appelle Dieu est un garçon noir à lunettes. Oui. Je vous propose de le montrer à la caméra, puisque l'émission est filmée. Et Caillou Hompoy, vous êtes notre invité, votre premier book club jusqu'à 13h.
Merci.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est pas tous les jours qu'on fait une émission, un book club avec un auteur suédois. Je crois que c'est la deuxième fois. Mon invité s'appelle Caillou Hompoy. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'appellation « vous êtes une écrivaine suédoise » ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou c'est pas exactement ce que vous pensez être?
C'est difficile. Ça dépend qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on met dans les mots suédoise. Et parce que je pense en Suède aussi, on m'appelle un écrivain africain. Et je suis tous les deux, je pense. Alors, j'ai écrit en Suède. J'ai écrit
les
en suédois.
Suédois vous disent que vous êtes une écrivaine africaine.
Oui.
Alors maintenant, en Europe, on a une expression qui est afropéen.
Oui, c'est ça, afropéen. Mais je suis aussi un suédois. Je suis aussi un écrivain suédois parce que je suis formée en Suède. Et il y en a beaucoup des références ici qui est beaucoup. Mais il y a certaines références qui est des choses suédoises et aussi la langue. Quand on écrit, on travaille dans la langue. Et c'est ça, c'est je travaille en suédois et avec tous les limités que ça, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ça, parce que la famille, il n'y a pas quelqu'un qui parle suédois, ils ne sont pas en Suède, ils sont en Tanzanie et au Congo. Mais j'ai écrit de cette situation. Je parle de cette famille en suédois et j'ai toujours battled
bataille
avec ça, parce que la langue ne peut pas arriver partout. Et c'est à cause de ça que j'ai mis des mots français, j'ai mis des mots Chiluba et Lingala et Swahili, mais toujours j'ai toujours un problème avec ça. Et ça, c'est, je pense que ça, c'est une situation qui j'ai laissé cette bataille, parce que j'ai dit, s'il y en a des problèmes, c'est aussi partie de l'histoire, parce que je suis une personne bougée.
Vous avez été déplacée, puisqu'à l'âge de 11 ans, vous êtes venue.
Je suis déplacée à cause de colonisation, c'est ça. Et c'est partie de l'histoire, que la langue est comme ça. Je parle de les gens qui peut-être parlent français. Il y en a Chiluba qui est là, mais je peux être un artiste en suédois, et une langue que j'ai étudiée quand j'avais 10 ans.
Ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui une artiste en Suède aussi.
Oui, oui, c'est ça. Et aussi, quand tu écris, tu utilises la langue avec créativité, non?
Mais parce que là, vous écrivez sur une période où votre héroïne a dit, enfin, en tout cas la narratrice, elle est en Tanzanie. Donc finalement, vous parlez de sa période tanzanienne en suédois.
Oui, c'est ça. Et c'est ça, la situation, c'est comme ça.
Alors, avant de qu'on soit coupé par la, enfin, interrompu par la publicité, je disais que dans cette famille, ils sont 7 enfants.
Oui.
6, enfin.
Il y en a un qui est mort.
Il y en a un qui est mort.
Oui.
Mais j'ai regardé sur l'arbre généalogique que vous présentez au départ.
Oh mon Dieu.
Il est toujours. Elle est toujours sur.
Je t'ai compté.
Oui, Chadi, elle est toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai bon.
Oui, c'est vrai.
C'est 7.
Oui.
Donc ils sont 7 enfants. Mais elle parle toujours que de 3 enfants. Comme s'ils étaient que trois. Pourquoi?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a fait des autres frères et sœurs?
Oui, mais je pense qu'elle c'est elle n'est pas agrandie avec eux. Ils sont comme des caractères dans l'histoire.
Ils sont plus grands.
Oui, ils sont plus grands.
C'est
ça aussi.
La génération
d'avant. Oui, c'est ça. Après, ils sont laissés au Congo ou bien ils sont partis des projets des parents, prendre tous les enfants et les prendre en Europe. Et c'est pour Adi, ils sont loin, mais après, mais il va les rencontrer un en un. Les frères et sœurs deviennent comme un miroir ou bien une fenêtre pour comprendre la situation qui crée la famille.
Les autres sont un élément de compréhension.
Oui.
Alors, je le disais tout à l'heure, et vous nous disiez que le titre original de votre livre, appelez-le-nous, c'est
Mai Bitu Devatan, ça veut dire Mai, le mot Mai, ça veut dire, signifie de l'eau.
Et Mai, c'est le prénom de la dernière petite sœur.
Oui.
On est d'accord.
Oui.
Et dans la famille, dans cette famille, il y avait une tradition, c'est d'appeler toujours une fille Mai, justement pour rompre. Quelque chose qui s'est passé avec l'arrière-grand-mère.
Oui, exactement. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qui est aussi, c'est une mythe de ma famille. On avait une grand-mère, l'arrière-grand-mère, ouais. qu'on dit était morte en captivité. Mais on l'avait captivée, on l'avait pris en captivité. Elle était enceinte avec mon grand-père. La famille a seulement acheté.
A sauvé le grand-père.
A sauvé le grand-père. Ouais. On l'a laissé pour mourir en captivité.
Et on lui a coupé les mains.
Non, ça...
Ça, si vous l'avez rajouté,
non, est-ce que j'ai écrit ça? Non, est-ce que je n'avais pas les messages? Maintenant, je me souviens pas. Oh non. Je vais expliquer la différence, ce qui se passe dans le livre. Pourquoi la vérité, oui. Ce qui s'est passé dans la vérité, c'est qu'on ne connaît pas pourquoi elle était en captivité. Ou bien, on ne m'a pas donné les réponses. Quand je demande cette question, on ne me donne pas les réponses. Y en a l'histoire qui est mon grand-père, quand il a essayé de donner le nom, il a essayé trois fois. Et trois fois, les filles sont mortes. Et après...
Il donnait May.
Non, c'était l'autre nom.
C'était l'autre nom.
Le vrai nom. Pour les livres, c'est May.
Le vrai nom, trois fois, elles sont toutes mortes toutes
les
trois.
Elles sont toutes mortes. Après, maintenant, le tour est venu chez mon père. Après, le dernier enfant, il a donné ce nom ici. Après, mais là, elle n'est pas morte. Elle a survécu.
Ouais.
Après, à cause de ça, on a sauvé. La arrière-grand-mère nous a pardonné. Moi, quand j'écrivais ce livre ici, je me demandais d'abord penser d'une famille qui a l'histoire comme ça, il risque un enfant. Comme ça. D'abord, je pensais de ça. Si tu crois en ça, comment tu peux risquer ton enfant? Après, je pense aussi, parce que quand j'ai écrit le livre, j'ai cherché l'histoire de la famille et j'ai cherché l'histoire des Congolais. Ça me faisait triste que je ne trouvais pas des histoires qui sont écrites par des Congolais. Je ne trouvais pas. Mais j'étais aussi, dans la famille, on avait toujours beaucoup de mythes. Après, j'ai eu une réalisation que les mythes, dans les mythes, il y en a un peu des vérités.
Vérité, toujours.
Mais ce qui est important avec les mythes, c'est ça parle de comment on a travaillé ce problème. Les mythes, ça un travail, ça fait quelque chose.
Mais parce que dans le livre, le père, il pense que de toute façon, tout ce qui arrive de mal dans sa maison, c'est parce qu'il n'a pas eu de fille qui survivait. C'est parce que la grand-mère n'a pas été vengée.
Ça aussi. Mais c'est un grand guilt.
Une grande culpabilité.
C'est une grande culpabilité qui vient de tout ce qui s'est passé. Le colonialisme, tous les gens qui ont mort. Ce qui reste dans la famille, c'est toutes les bonnes choses que vous avez faites, toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Mais... la partie de ce trauma, c'est le guilt. La partie de Et c'est ça qui est... quelquefois, c'est le guilt parce que tu as survivé, parce que tu es toujours là. Mm. Quelquefois, c'est aussi pour les choses que tu n'as pas fait. Mais toujours là, c'est la partie de ce qui fait mal, the pain.
On parle toujours de la culpabilité et de la douleur.
Oui, c'est ça. Mm. Et ce que je voulais dire, que quand j'ai commencé à travailler avec les livres, j'ai lu des recherches et j'ai lu qu'on prenait les gens de famille, des gens, pour forcer les gens d'aller travailler. Donc, on peut prendre ta mère ou ton enfant pour te forcer pour travailler. Et c'est ça qui est devenu les raisons dans les livres. Mais en vérité, j'ai essayé de trouver les raisons, mais on ne me donne pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît peut-être. Après aussi, j'ai vu la famille. Il y avait les noms là, il y avait les gens qui ont le nom là, qui ont suivi. So, qui c'est le mythe à ce... mais c'est que je pense avec... parce que moi, je vois les livres ici, c'est aussi un mythe, mais c'est le mythe pour Adi. Parce que je vois le mythe, ça nous montre qu'est-ce qu'on a fait pour move forward. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec une histoire que ta grand-mère ou bien ta mère était morte en captivité? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'émotion qui vient avec ça? Tu dois avoir une histoire qui te donne les solutions. Tu vas me dire, oh, peut-être si j'ai fait seulement ça, ça va sauver ça, ça va arranger ça. Et c'est ça aussi, cette histoire, c'est comme aussi pour Adi, je sais pas, j'ai pensé, ça c'est le mythe pour Adi. Comment Dieu est pour toi, Dieu est avec toi, des choses de péché, ce n'est pas comme on t'a dit. Oui.
Il y a une autre, alors ça c'est pas Dieu, mais les filles qui n'obéissent pas à leurs parents, elles sont comme elles sont en terre. La pluie vient les chercher.
Oui. L'histoire, le mythe, c'est
un autre mythe.
Oui, c'est le mythe que le parent avait enseigné à dire pour elle ne doit pas faire du. Elle ne doit pas être. Comment est-ce qu'on dit? Elle ne doit pas.
Dites-moi en anglais.
Pour elle ne doit pas être. Même en anglais, ce n'est pas là.
Suédois.
Elle doit comprendre les parents. S'il ne comprend pas les parents, elle sera punie. Ça parle aussi de l'histoire d'être. C'est une histoire de colonisation parce que tu dois respecter les autorités. Et c'est ça que les gens aussi enseignent les enfants. Tu dois respecter l'autorité, sinon tu vas être très puni. Après, j'ai écrit une histoire dans le livre que je me rappelle, mon père aussi m'avait dit. Il m'avait dit en volée colonisation, on frappait pas les enfants. Après, je pensais que c'était très intéressant que c'est une histoire qui ressemble à comme on frappe les gens avec les chicottes pour les forcer à faire le travail. Mm. C'est la même chose qu'on fait aux enfants et souvent c'est.
C'est-à-dire qu'après on a frappé les enfants jusqu'à la colonisation. On frappait pas les enfants du tout.
Non, c'est seulement une histoire que mon père avait dit. Il a dit que tu sais, c'est avec les colonisations qu'on a commencé à frapper les enfants comme une partie de l'éducation, comme une partie de l'élever les enfants. Après, on lit la Bible, on dit oui, la Bible dit il faut, si tu frappes ton enfant, tu aimes ton enfant, ou bien quelque chose comme ça, tu disciplines tes enfants, tu aimes tes enfants. Et j'ai pensé de ça comme la même chose avec les dieux. Très fort et ça ressemble les autorités, les cultures, oui. Autorités qui est venue avec colonialisme.
Mais là, le père, à un moment donné, il la frappe. Enfin, une éducation dure. Il lui prend la tête, qui lui cogne contre la table.
C'est vrai.
C'est violent.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant parce que ce que je pense beaucoup dans les livres, c'est comme les gens en âme ou bien prennent des situations qui leur oppresse,
oui, qui
leur
oppresse,
et continuer avec ça, même si il y en a pas une personne qui est là pour leur regarder. Alors,
c'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont répliquer cette façon de
oui,
faire.
Oui, c'est resté, c'est là maintenant. Et ce que j'ai pensé aussi, je m'en ai oublié ça déjà. Oh,
bon, c'est quoi ? On va s'en souvenir pendant la page de publicité. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître, de votre premier roman, Dieu est un garçon noir à lunettes. L'éditeur, c'est La Belle Étoile. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le premier Book Club de Kayo Mpoy qui est venu nous parler de Dieu est un garçon noir à lunettes, un livre qui a été publié tout d'abord en suédois, qui a eu énormément de succès en Suède. Vous avez eu un prix et aujourd'hui vous êtes traduite en français, en allemand je crois.
Oui, et finnois.
Et en finnois, voilà, bien. Donc, et vous arrivez en France aux éditions La Belle Étoile. C'est un roman majeur. Il y a beaucoup de sujets forts dans votre livre. Vous n'arriviez pas à choisir. Vous avez mis tous les sujets forts dedans.
Oui, je pense peut-être que c'est une maladie. On m'avait dit, le début roman, et les gens qui... Tu ne vois pas l'autre livre, tu mets toutes choses dans les... Il y a tout, oui.
Vous m'expliquez la première scène
oui.
De l'œuf.
Oui.
Dans l'armoire?
Oui.
Pourquoi vous avez ouvert là-dessus?
Ah, oui, mais c'est ça que je voulais...
Il ne faut pas expliquer?
Je ne vais pas expliquer. Non, mais je vais te dire pourquoi j'ai ça au commencement. Parce que c'est pour illustrer les situations que cet enfant est. Parce que, comme je parlais avant, elle a déjà échoué. Même si il n'y a pas une histoire qui va se passer avec elle, il a déjà échoué pour être une personne virtuelle parce qu'il est une personne. Et c'est ça l'oppression. Et ça, on l'enseigne depuis le commencement que toi tu es mauvais parce que tu as la sexualité, ou bien tu es mauvais parce que tu es noir, ou bien tu es mauvais parce que tu as ce corps ici, ou bien tu as cette langue. Ça veut dire que c'est ça, c'est à cause de ça, c'est oppression, parce que tu peux jamais quitter ça, parce que tu dois trouver, tu as la honte parce que pour une histoire qui est naturelle pour toi, tu vas jamais laisser ça, c'est impossible. Et c'est ça comme l'oppression fonctionne. Et tu sens honte pour une histoire qui est naturelle pour toi. Vous comprenez, vous savez ça? Et c'est ça, à cause de ça, je voulais ouvrir ça pour montrer qu'Adi, il est seulement un enfant qui joue, il est seulement un enfant qui doit avoir le droit de devenir une personne
Le travail des parents, c'est de protéger les enfants.
Oui. Mais les parents ne peuvent pas le protéger contre une histoire qui est mais ça ce n'est pas protection quand on le dit tu es sale, ce n'est pas protection,
c'est pour lui donner les clés, vous voyez, d'une certaine façon,
oui,
de ce qu'elle doit faire ou pas
oui,
faire, vous
oui, voyez. Mais le problème est que c'est que les parents allaient faire. Et à mon avis, c'était parler de faire les distinctions avec ça, c'est ce qui est ton, ça c'est ce qui est ton corps, ça c'est ce qui est ton sexualité, et ça c'est ce qui n'est pas bien pour toi. Parce que il ne parlait même pas de les corps, et Adi ne voyait jamais même pas ses parents corps nus. Il y avait seulement une situation ou bien très une situation très très fort, très très il y avait seulement la honte, la honte, je sais pas même en français s'il y avait, vous avez différence, parce qu'il y en a en suédois, il y en a skuld et skam. Skuld c'est guilt. Scam, c'est shame. Et shame, c'est différent.
Ouais, c'est
shame.
La culpabilité et la honte.
Et la honte. Ah, oh, ok, c'est honte. Okay.
C'est la honte.
La honte, la honte. La honte n'aide jamais quelqu'un. Ça détruit une personne. Parce que souvent, la honte, ça attaque à la personne. Et ce qui Adi avait besoin, c'est toi tu as un corps et c'est naturel que tu veux des choses, mais il faut pas aller là, faut pas faire comme ça, ou bien mais ce que Adi trouve, c'est que tu vas aller en enfer si tu as ça, si tu as, et ce qu'elle trouve depuis le commencement, c'est que elle pense que, oh, moi, je ne peux jamais... je vais aller en faire parce que j'ai un corps. Et c'est ça aussi que moi, j'ai pensé beaucoup parce qu'on parlait de l'âme, on cherchait l'âme, on cherchait de l'histoire, on allait à l'intellectuel, on veut pas être dans les corps. Et je voyais aussi ça comme... c'était aussi... je faisais l'analogie que quand on dans l'analogie ici, si on veut être comme civilisé et n'est pas civilisé. Civilisé, c'est les gens qui n'est pas dans les corps. Ils sortent, ils sont intellectuels, mais les autres sont des sauvages. Et qui, je vois, c'est ça, si on parle encore d'oppression là, c'est ça qui est dans les plus hauts niveaux pour tout le monde, que nous, comme les gens, l'être humain, on a des corps, on doit être dans un corps, mais des sociétés qu'on a, des religions qu'on a, situées à l'est. Ouest, ok, je ne vais pas entrer dans ça. Je dis que c'est une religion qui est venue pendant les religions qui a seulement un seul dieu, souvent. Je ne connais pas, on dit monothéiste.
On dit monothéiste.
Oui. Et ils sont les mêmes dans la façon que le corps n'est pas. C'est une place qu'on ne veut pas être, on doit laisser. Et si moi, l'analogie ici, je mets comme ça, je vois, ok, qui, cette histoire, ça rentre partout. Et qui, on met, ici, on met les blancs, on met les noirs sont des sauvages, les blancs sont des civilisés. Après, on a l'homme est l'intellectuel, la femme est celui qui est chaotique, qui est dans son corps. Et après, les grands-pères, personnes et les enfants, et après aussi l'art et la mathématique. Est-ce que c'est le même, tu vois ça, la même oppression, ça se trouve dans toutes les situations, mais je ne suis pas une sainte, ça c'est une théorie.
Je ne suis pas une sainte.
Non, je ne suis pas une scientiste, je ne suis pas
une scientifique.
je parle comme si ça c'est une théorie, mais moi je vois, c'est la même chose qui se passe partout, et l'oppression, ça fonctionne de la même façon.
Dans toutes les colonisations.
Oui, c'est ça. Et les colonisations, mais ça se passe. Il y en a les raisons que les colonisations se passent. Et il y a les gens qui veulent avoir moyen d'utiliser ce qui est dans les pays, la place là où les gens ici vivent. On doit trouver une façon de les relever ou bien d'utiliser ça. Et ça se passe même. Mais colonisation se passe aussi. Ce n'est pas seulement quand les gens se voient différents. Ça se passe aussi en Suède, par exemple. Et les colonisations se passent aussi avec native Swedish.
Avec ceux qui sont nés en Suède.
Non, native, also les peuples.
Ah oui, c'est-à-dire que ceux qui sont nés, qui sont issus de l'immigration, mais qui sont nés en Suède.
Non. Indigenous.
Les indigènes.
Oui, les indigènes de Suède.
Oui, donc les natifs de Suède, les Suédois.
Oui, non, ils s'appellent les Sami, les gens, et oui. Il y en a aussi les colonisations.
Les originaires primitifs de la Suède.
Oui, les indigènes de Suède. Et il y en a aussi les colonisations. Là, il y en a aussi, si tu lis comme on les a fait, c'est la même chose que les Blancs faisaient avec les Noirs en Afrique. Ce n'est pas seulement une question des races, c'est beaucoup aussi des questions des... Ça fonctionne de la même façon, et c'est pour détruire les gens qui sont en place et pour trouver une façon de les élever là où ils vivent, et avoir les tilgång et pour avoir leur les places qu'ils ont pour parce que les resources de la place là et je, moi les colonisations j'ai vu ça fonctionne le même c'est ça n'est pas c'est
bon,
moi de ça
vous n'êtes pas une scientifique mais vous conceptualisez ce processus. Comment est-ce que quand on a grandi en Tanzanie on peut continuer à vivre en Suède où le climat est quand même très très différent?
Je me demande ça aussi moi aussi chaque jour. Non, mais je suis habituée et suédoise et chez nous maintenant. Mais oui, quelquefois je me demande ça, quand ça fait froid dans l'hiver, je vais quitter. Mais c'est tout le monde qui est là pense comme ça parce que ça fait très froid.
Parce qu'il fait très froid. Ah,
oui, ça fait très froid. Oui, mais c'est aussi chez nous. Donc, parle suédois, nous tous, nous sommes là. C'est ça. Mais j'aime aussi le Canada, mais le Canada est presque le même.
C'est pareil. C'est juste que l'hiver est plus long.
Oui, oui, mais c'est ça. J'aime des montagnes, j'aime. Et si tout le monde est là, quelquefois aussi, ta home, comment est-ce qu'on dit? Pas maison, mais home.
Oui, là où tu vis.
Là, ok. Mais le mot pour home, ce n'est pas la maison, c'est... Non, foyer.
Oui, est-ce que quelqu'un a mieux que maison?
Est-ce que on peut pas dire, je ne peux pas dire que Suède est ma maison. On peut pas dire ça.
Si.
Non.
On peut. C'est, quand je dis ma maison,
c'est chez moi.
Mais vous pouvez dire.
Oui, ok.
C'est là où je vis. C'est chez moi.
Ok. Ouais. C'est chez moi, mais c'est chez moi parce que les gens sont là, les gens que j'aime sont là. C'est ça aussi, mais je sais pas, j'aime aussi le Canada, mais j'aime des montagnes, j'aime.
Ah, c'est pas... Ouais, finalement, vous aimez le froid. Est-ce que vous allez continuer à écrire les histoires de Adi?
Pas Adi. Adi a fini son histoire parce qu'Adi s'était concentré à un certain problème et j'ai fini ça et le livre finit, c'est tout. Mais l'autre livre, ça suit une personne qui peut-être. Qui est un peu comme Adi, mais il a les autres problèmes. Le deuxième livre, parce
c'est
que
c'est frère.
Non, c'est pas un frère. Non. C'est toujours, c'est comme une continuation d'Adi, mais comme Adi dans un parallèle univers. Adi, les frères et sœurs sont différents et peut-être les papas et maman sont un peu les mêmes, mais ils sont aussi différents. C'est parce que j'ai comme si je suis ma vie un peu. Les deux livres ici, je suis ma vie. D'abord, c'est 5 à 10, après maintenant 10. Mais le deuxième livre, ça change un peu parce que le premier livre, je pense que j'ai essayé de comprendre le père, le papa.
Le père, qui avait un signe distinctif, qui était un élu d'une certaine façon. Hein.
Élu?
Élu, qui est le... C'était lui qui était là pour racheter la famille, le père.
Oui, racheter, à se sauver.
Oui, qui devait sauver la famille.
Oui, c'est son travail, oui. Et je pense beaucoup...
Sauver sa famille et ses enfants.
Oui, c'est ça.
S'il est comme ça, c'est parce qu'il veut que ses enfants soient parfaits.
Exactement.
Et que ses enfants s'en sortent, en fait, finalement.
Oui, c'est ça que j'ai arrivé à... parce que je me demandais qu'est-ce qui fait les familles comme... pour moi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé. Parce que je connais beaucoup de gens qui parlent de leur famille, qui parlent de leur père, certainement. Les pères qui ont... Il y en a beaucoup de cruauté, il y en a beaucoup de pères forts. Et je me demande pourquoi ça se passe. Et quand je regarde l'histoire, je dis, OK, ce n'est pas peut-être drôle, parce que ça, c'est une génération qui vivait, qui est mise au monde dans un temps, là, beaucoup de gens sont morts, une génération, là, les gens étaient obligés de travailler pour les gouvernements belges. Et aussi les faits des colonisations et toutes choses là qui arrivent et ça crée.
Et tout ça est dans votre premier roman qui en français est Dieu est un garçon noir à lunettes aux éditions La Belle Étoile. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
C'était un plaisir. Parfait, le français a été maîtrisé. On réécoutera l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube et passer un très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.